أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، nous continuons aujourd'hui le sujet de la zakat, l'impôt et l'aumône légale du musulman. Nous avons parlé depuis quelques semaines des catégories qui ont droit à la zakat. Et nous en avons déjà énuméré 4 sur les 8. Les 4 que nous avons déjà désignés sont les plus démunis, les pauvres, les fonctionnaires qui œuvrent pour récolter, redistribuer la zakat. Et la quatrième dont nous avons parlé, ce sont ceux dont le cœur est à gagner. Allah Azza wa Jalla a dit en parlant de ces 8 catégories, les aumônes légales ne sont destinées qu'aux pauvres, aux plus démunis, aux fonctionnaires qui œuvrent pour la zakat, à ceux dont le cœur est à gagner, pour les esclaves, c'est la 5e catégorie, pour les endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur perdu, c'est une obligation d'Allah Azza wa Jal, et Allah est omniscient et sage. La 5e catégorie, Allah Azza wa Jal a donc dit, est pour les esclaves. Les esclaves, qu'ils soient des hommes ou des femmes, jeunes ou vieux, une part de la zakat leur est réservée. Une part de la zakat leur est réservée par l'État islamique, qui réserve cette part pour l'affranchissement et la libération de ces hommes du joug de l'esclavage. Quand l'islam est arrivé, l'esclavage était répandu. Et donc, Allah Azza wa Jal a réservé une part de la zakat pour les esclaves, afin qu'ils retrouvent leur liberté. L'État islamique, chaque année, après avoir récolté la zakat, il doit donner une part pour ceux qui possèdent des esclaves en échange de leur libération. Nous comprenons ici que l'islam, avec sa foi, avec ses principes fondamentaux, avec sa civilisation, a été un pionnier dans l'abolition de l'esclavage et l'organisation de l'esclavage. Il y a plus de 14 siècles, l'islam est venu et il a tout de suite mis un terme à tous les facteurs, toutes les causes qui pouvaient amener à ce qu'un homme qui était libre devienne esclave. L'islam est arrivé et les gens avaient l'habitude de kidnapper d'autres personnes pour s'enrichir, pour les vendre et en faire des esclaves. L'islam est venu et a immédiatement interdit cette pratique. Quand l'islam est arrivé, celui qui était endetté et qui n'avait pas le moyen de rembourser sa dette, il pouvait devenir l'esclave de celui pour qui il devait de l'argent. L'islam est arrivé et a formellement interdit cette pratique. Quand l'islam est arrivé, ceux qui n'avaient pas de quoi se nourrir et nourrir leur famille allaient jusqu'à vendre leurs propres enfants et en faire des esclaves pour pouvoir s'enrichir. L'islam est arrivé et interdit cette pratique. L'islam a même fait de l'affranchissement des esclaves une manière de se faire pardonner de ses péchés. Quelqu'un qui aurait rompu le jeûne obligatoire du Ramadan volontairement, il lui est demandé d'affranchir un certain nombre d'esclaves pour se faire pardonner. Et dans de nombreuses fautes, il nous est demandé d'affranchir un certain nombre d'esclaves. Pourquoi ? Parce que l'islam est arrivé pour effacer toutes les traces de l'esclavage, de la civilisation humaine. Et aujourd'hui, l'islam est arrivé à ce résultat, bien avant toutes les civilisations qui veulent se revendiquer et qui veulent faire croire qu'ils sont ceux qui ont aboli l'esclavage. Donc, nous avons dit, la 5e catégorie de ceux qui méritent et qui ont droit à la zakat, ce sont les esclaves, pour qu'ils retrouvent leur liberté. On donne une part de la zakat à ceux qui possèdent des esclaves en échange de leur libération. Entrent aussi dans cette 5e catégorie les musulmans prisonniers de guerre. Les musulmans qui sont faits prisonniers après une guerre par des non-musulmans, il est aussi demandé à l'État islamique de donner une part de la zakat qui rentre aussi dans cette part des esclaves pour qu'ils soient libérés. Ça peut être une rançon, ça peut être appelé une rançon, peu importe, ce sera la part de la zakat qui sera donnée pour que ces prisonniers musulmans soient libérés. Et certains savants ont également indiqué qu'entrent dans la catégorie des esclaves aussi les peuples qui sont soumis à la colonisation et à l'occupation. Si, en échange d'une somme d'argent, ils peuvent être libérés et retrouver leur indépendance, alors il appartient aux pays musulmans de payer ceux qui les occupent et ceux qui les colonisent pour que ce pays retrouve sa liberté et son indépendance. La sixième catégorie de ceux qui ont droit à la zaka, ce sont ceux dont Allah Azza wa Jal a nommé Al-Gharimin, c'est-à-dire les endettés, ceux qui se sont endettés. Les trois imams, les trois écoles de pensée de l'imam Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, ont distingué deux catégories d'endettés. Ils ont dit qu'il y a ceux qui sont endettés pour leurs propres intérêts et ceux qui sont endettés pour l'intérêt de la société, pour l'intérêt du groupe dans lequel ils vivent. Commençons par ceux qui sont endettés pour leurs propres intérêts. C'est quelqu'un qui s'endette pour se nourrir, quelqu'un qui s'endette pour son foyer, pour sa famille, quelqu'un qui s'endette pour se vêtir, quelqu'un qui s'endette pour se marier, quelqu'un qui s'endette pour soigner une maladie dont il serait atteint, quelqu'un qui s'endette pour trouver un foyer, ou tout autre exemple qui y ressemble. Cet endetté, c'est celui qui s'endette pour ses intérêts, pour ses propres intérêts, non pas pour les autres, mais c'est pour lui et sa famille. Celui-là, s'il a besoin d'une somme d'argent pour pouvoir rembourser ses dettes, alors il peut avoir droit à la zaka, à condition qu'il ne soit pas riche et qu'il n'ait pas d'argent de côté qui soit suffisante pour rendre sa dette. S'il a de l'argent de côté qui est suffisante pour rendre sa dette, alors il n'a pas droit à la zaka, quand bien même il la demanderait. Mais celui qui a droit à la zaka, parmi ses endettés, c'est celui qui n'a pas assez d'argent pour rembourser ses dettes. On lui donne la somme nécessaire pour rembourser sa dette. Et il faut également, parmi les conditions de cet endetté, que sa dette ne soit pas reportée. S'il s'est mis d'accord avec la personne à qui il doit de l'argent, qu'il peut rendre cet argent dans 3 ans, alors il n'a pas à recevoir la zaka tout de suite. Mais s'il doit la rendre immédiatement, dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent, alors lui, il a droit à la zaka. La deuxième catégorie de ceux qui sont endettés, ce sont ceux qui s'endettent pour les autres. Et ici, c'est exclusivement ceux qui s'endettent pour réconcilier entre des individus. Car il était répandu, les guerres civiles ou les conflits entre les tribus pendant la période anti-islamique. Et donc certaines personnes respectables, des notables, qui ne voulaient plus de cette guerre, allaient s'endetter, car ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour faire un pacte de paix entre ces tribus, entre les familles qui faisaient couler le sang entre eux. Si donc un musulman cherche à réconcilier entre deux nations musulmanes, entre deux pays musulmans, ou s'il cherche à réconcilier entre deux tribus musulmanes qui se font la guerre, ou deux familles musulmanes qui se font la guerre, et qu'il a besoin pour cela de s'endetter, celui-là a droit à la zaka, car il s'est endetté non pas pour lui, mais pour l'intérêt de toute la communauté musulmane. Ensuite, la septième catégorie de ceux qui ont droit à la zaka, Allah Azza wa Jalla a dit et dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, tous les exégèses sont unanimes pour dire que ceux qui sont concernés ici, ce sont ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Ceux qui sacrifient leur vie au front pour défendre la nation islamique et ses principes. Ceux-là ont droit à la zaka pour leur famille, pour nourrir leur famille, mais aussi pour tout ce dont ils ont besoin pour défendre la communauté et la nation islamique. Nous devons également savoir que lorsque nous parlons de cette part de zaka, ce n'est pas uniquement le combat militaire dont il s'agit ici, même si c'est le principal, même si c'est la principale sorte de combat qui est mené, mais il y a toutes sortes d'autres djihad, d'autres combats dans le sentier d'Allah. Il y a par exemple le combat ou le djihad intellectuel, le djihad par la langue, le djihad par la plume, le djihad éducatif, le djihad social, le djihad économique, le djihad politique ou encore médiatique. Toutes ces sortes de djihad, quand ils sont menés dans le sentier d'Allah, ils ont droit à une part de zaka quand c'est l'État islamique qui l'organise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, combattez les idolâtres, combattez-les avec vos richesses, avec vos âmes et avec vos langues. Ensuite, la huitième catégorie et dernière catégorie de ceux qui ont droit à la zaka, Allah Azza wa Jal dit à leur sujet « Wabni Sabil » est le voyageur. Et ici, ce n'est pas n'importe quel voyageur, c'est le voyageur qui est parti en voyage et qui est perdu ou qui se retrouve bloqué dans un pays parce qu'il n'a plus de quoi revenir dans son pays d'origine. Il cherche à revenir, mais il n'a pas les moyens. Quand bien même ce voyageur serait riche dans son pays d'origine, mais il n'a pas accès à ses richesses pour pouvoir revenir, alors cet individu a droit à la zaka. Mais la différence entre le voyageur pauvre et le voyageur perdu, le voyageur pauvre et le voyageur riche, c'est que le voyageur riche, quand il reviendra, certains savants lui recommandent de rendre la part de zaka qu'il a eue. Quant à l'école de pensée de l'imam Malik, ils rendent obligatoire cet aspect. Ils obligent le voyageur riche, dès qu'il revient chez lui, de rendre la part de la zaka à l'État islamique, cette part qu'il a utilisée pour revenir chez lui. Une autre condition, c'est qu'il n'ait pas fait un voyage pour un interdit, pour commettre un interdit. Si c'est quelque chose de permis, son voyage, si son voyage il l'a fait pour appliquer quelque chose de permis ou pour obéir à Allah Azzawajal, alors il a droit à la zaka. Nous avons donc, en parlant de cette huitième et dernière catégorie, fait un résumé de tout ce qu'il y a à savoir à propos des règles de la zaka. N'hésitez donc pas, mes frères et sœurs, à donner de votre zaka, car c'est un pilier parmi les piliers d'Allah Azza wa Jal. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam, et c'est un des commandements de l'islam. Allah Azza wa Jal dit « Prends de leur richesse, prends de leur richesse une zaka ». Une aumône qui servira à les purifier, qui servira à les purifier et à absoudre leurs péchés. Ayouha l'ikhwa, fait du'a, sanad'u ma'a maridain. Hunaka ibnun yatlubu du'a li abihi wa huwa fi halatin khatira fi ghaibouba. فيطلب الدعاء له فسندعو معه إن شاء الله ومع جميع مرضى المسلمين. وأيضا هناك أخ أخبرت بأن هناك أخا يصلي كان يصلي معنا وهو في المستشفى الآن وأيضا هو في حالة خطرة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهما. Donc je viens de dire que nous allons faire des invocations pour deux personnes qui sont malades, un frère qui prie avec nous et qui est dans un état critique, et aussi quelqu'un qui demande des invocations pour son père qui est dans le coma. نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا اللهم اشفي هذين المريضين اللهم اشفهما اللهم اعفهما اللهم اشفي هذين المريضين اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهما واشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشفهما واشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم ارحمهما بشفائك العاجل اللهم أنزل عليهما شفاءك العاجل اللهم ارزق الصبر لأهلهما وذويهما اللهم ارزق الصبر لأولادهما اللهم أدخل السرور والفرحة إلى أهلهما وذويهما يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أصلح أمتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل اللهم دمره يا رب العالمين اللهم دمره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترفع لا إله إلا الله في كل مكان اللهم ركز كلمة التوحيد في كل مكان اللهم ركز عقيدة التوحيد في قلوبنا وفي حياتنا وفي معاملتنا اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم إنا نحن في حاجة إلى رحمتك فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في دنيانا وارحمنا في آخرتنا اللهم ارحمنا بعد الممات اللهم ارحمنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في قبورنا اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في قبورنا اللهم ارحمنا يوم القيامة اللهم اجعلنا من أهل ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مصلحين واجعلنا صالحين. اللهم اجعلنا قانتين واجعلنا صائمين. اللهم اجعلنا مصلين. اللهم اجعلنا تائبين مستغفرين. اللهم اجعلنا متقين. اللهم اجعلنا متقين. اللهم اجعلنا متقين. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلحهم. اللهم اهدهم. اللهم اهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى. اللهم إنك تعلم أن شبابنا في خطر، فاللهم احفظهم. اللهم احفظهم من الحرام. اللهم احفظهم من الحرام. اللهم اهدهم الصراط المستقيم. اللهم اهدهم الصراط المستقيم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم اجعلهن متسترات. اللهم اجعلهن متحجبات. اللهم احفظهن من العري والتبرج وصفات الجاهلية. اللهم احفظهن من العري والتبرج وصفات الجاهلية يا رب العالمين، رغم أنف الحاقدين ورغم أنف المنافقين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.